T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le 4e mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés?
Pense au podcast.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces nouvelles chroniques des bibliothécaires. Aujourd'hui, autour de la table se trouve Laurence, qui nous présentera un documentaire pour les jeunes, Charlène, avec un roman adulte, Mélanie et sa BD, ainsi que moi-même, Kevin, avec un album musical. D'ailleurs, allons-y. Aujourd'hui, on plonge littéralement dans Plouf, le tout dernier album de Flavien Berger, sorti juste avant l'été 2025. Mais avant, je vous emmène 10 ans en arrière. Printemps 2015, Flavien sort son premier album, Léviathan. Une bête électro-expérimentale qu'il a fabriquée seul, en mêlant plusieurs genres et inspirations. Jazz, pop, poésie. Après cela, il sortira plein d'autres albums, composera des musiques de films et coproduira même l'album Constellation de Pommes. Retour de nos jours avec Plouf, qui n'est pas un simple disque. C'est un voyage, une relecture collective, vivante et surprenante de ses premiers sons que je vous propose de découvrir avec ce premier extrait. D'entendre Mirail, le premier titre de l'album, une porte d'entrée en douceur, réimaginée d'après le dernier titre de l'album Léviathan. Car vous l'aurez peut-être compris, le concept de cet album est de reprendre les anciens morceaux du premier album de Flavien, Léviathan, pour totalement les réinventer, accompagné cette fois-ci de La Brume, un collectif d'artistes. Et on sent, dès les premières secondes que je viens de vous faire écouter, que l'on n'est plus dans une chambre solo, avec des sons sortis d'un séquenceur ou d'une boîte à rythme, mais dans une aventure partagée, organique et live.
J'extirpe ma tête hors de nos jeux dans lesquels je me crois mort. Je suis seul avec l'or de l'eau sous la surface de l'aurore.
C'était Turquoise, qui revisite l'un des morceaux les plus emblématiques de la carrière de Flavien Berger, La Fête Noire. Un titre tendu, hypnotique, presque obsessionnel, où la tension ne cessait de croître. Mais dans Plouf, la donne change. La version de 2025 prend une ampleur nouvelle. Ce qui était presque un lamento dans l'original se transforme ici en une fête collective. C'est plus doux, plus fluide, plus enveloppant.
Thank you.
c'était Filmer du feu, repensé de Inline Twist dans une version qui groove. Ce morceau, c'est l'exemple parfait de ce que cette relecture apporte. Du souffle, de la chaleur, une envie de danser, ou au moins de se laisser porter. Cet album, c'est une proposition artistique généreuse, une célébration de la musique vivante, collective, mouvante. C'est un coup de cœur de mon côté, et je vous invite à découvrir plus en profondeur en allant emprunter Plouf de Flavien Berger à la médiathèque Vaillant. Merci d'avoir plongé avec moi. Je donne la parole à Laurence.
Merci Kevin. Bonjour à toutes et tous, chères auditrices et auditeurs de Radio B. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous mon coup de cœur pour un documentaire jeunesse édité en 2024 chez Glénat. Il s'agit du livre « Fleuve » de Simon Chapman et de Kyulan. Plusieurs prix littéraires ont récompensé le talent des auteurs. Simon Chapman, qui a écrit le texte, enseigne la physique. Il est également explorateur et auteur d'ouvrages pour les enfants. Kyulan, qui a réalisé les illustrations, a étudié le dessin aux Beaux-Arts en Chine, puis elle s'est installée en France où elle travaille comme illustratrice indépendante. Alors de quoi parle ce livre ? Eh bien, comme son nom l'indique, des fleuves, mais pas seulement. Dès les premières pages, les auteurs nous invitent au voyage et les fleuves, qu'ils soient rapides, tranquilles ou impétueux, nous font découvrir le monde et traverser les continents. Ils sculptent les paysages, façonnent notre manière de vivre et accueillent une biodiversité incroyable. Au cours de la lecture, nous saurons tout sur le parcours de l'eau, nous observerons comment les cascades, les gorges, les deltas se forment pour donner naissance à des paysages grandioses. Nous visiterons le plus grand barrage hydroélectrique au monde. Nous remonterons le temps jusqu'à la civilisation égyptienne qui a prospéré grâce au Nil. Ce livre est là aussi pour nous rappeler que les villes ont pris naissance à côté des cours d'eau pour des raisons pratiques et stratégiques. Car l'eau, comme tout le monde le sait, est avant tout une source de vie. Bref, page après page, les auteurs nous convient à une passionnante croisière sur les plus beaux fleuves de la planète. Cet album est pour moi un véritable coup de cœur. Son texte, passionnant et accessible aux enfants comme aux adultes. Six grands dépliants viennent enrichir les différents chapitres du livre, où, au-delà des cours d'eau et des fleuves, il est aussi question de l'histoire des hommes et de la beauté des écosystèmes. Et que dire des illustrations ? Elles sont éblouissantes, avec des couleurs éclatantes qui remplissent toutes les pages et rendent un hommage vivant à la nature. Alors, rendez-vous à la médiathèque Camus, où vous pourrez embarquer pour ce voyage dans le temps et l'espace, à travers l'histoire et les cultures de notre belle planète. Je laisse à présent la parole à Charlène pour son coup de cœur.
Merci Laurence. Alors nous sommes actuellement en plein dans la rentrée littéraire et les différentes sélections des Grands Prix suivent leur cours. Et pourtant le livre dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui ne fait pas partie de ces sélectionnés et il ne s'agit pas non plus d'un roman français. Le titre que j'ai choisi de vous présenter est un récit écrit par l'autrice et philosophe italienne Ilaria Gaspari et il se nomme « Une rumeur dans le vent » publié aux éditions Le Bruit du Monde. Vous l'aurez compris par son intitulé, dans ce roman, la rumeur va être la toile de fond se tissant lentement de chapitre en chapitre. Cette chronologie de la calomnie nous est racontée du point de vue de Barbara, qui relate les faits des années après qu'ils se soient produits. Cette histoire prend place dans le Rome des années 80, où Barbara est alors une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle vient de se faire quitter, et seule dans une ville qu'elle connaît mal, rédige une thèse qui ne la passionne pas et va bientôt perdre son unique source financière, soit son emploi de babysitter. Dans ce moment un peu critique de sa vie, la famille pour laquelle elle travaille lui présente Marie-France, une Française haute en couleur qui tient une boutique de prêt-à-porter. Elle s'y fait embaucher et découvre le quotidien de ce magasin à l'équipe peu banale. Marie-France est populaire, classe et volubile, ses affaires marchent bien et elle a l'idée de bousculer un peu le milieu du prêt-à-porter italien en proposant une gamme de vêtements spécialement dédiée aux jeunes filles. Cette idée novatrice, qui va effectivement faire venir toutes les adolescentes du quartier, va aussi précipiter la chute de son commerce. Marie-France est à mon sens le personnage principal de ce roman. Elle est à la fois fantasque et rigide, très mystérieuse et fascinante. On sent que les sentiments de Barbara à son égard évoluent au gré de la rumeur qui s'installe page après page. On le ressent dans la manière dont elle décrit cette femme au gré du récit, au début. Mais je ne la connaissais pas et je ne pouvais pas imaginer la ténacité avec laquelle elle nourrissait ses deux obsessions, qui étaient la beauté et la mort. Au milieu du roman, « Il n'y a pas de femme laide, juste des paresseuses », disait Marie-France. Dans le dernier quart du livre, « Non, le seul problème, c'est qu'il y a cette femme sur ta route. Je n'ai toujours pas très bien compris aujourd'hui comment l'idée qu'il puisse s'agir de ma patronne était parvenue jusqu'à mon esprit. Il n'empêche que, d'une certaine façon, c'était vraiment elle, la femme qui donnait forme à notre idée de nous-mêmes, la femme que, sans le savoir, j'étais sur le point de trahir. » Et sur les dernières pages, c'était Marie-France que j'avais toujours devant moi, qui m'avait transformé moi aussi de fille en forme en belle femme, métamorphose dont il ne fallait pas trop s'enorgueillir. C'était Marie-France que j'avais tant aimée avant de la trahir comme tous les autres, de rire d'elle. C'était elle, qui me rappelait qui j'étais, qui je pouvais être et qui je ne serais jamais. En résumé, l'atmosphère du roman nous plonge dans le milieu bourgeois italien et de la mode, avec la vision d'une femme mûre sur ses jeunes années où elle était un peu perdue et naïve. Cette histoire de rumeur qui s'oublie au début de la lecture s'intensifie progressivement au fil du récit et rend les derniers chapitres haletants, même si parfois on se perd dans les réflexions et la chronologie de la narratrice. C'est en tout cas un sujet original qui change de ce que l'on peut retrouver dans cette rentrée littéraire, et vous pouvez retrouver cet ouvrage à la médiathèque Vaillant. Et maintenant, je passe la parole à Mélanie pour son coup de cœur.
Bonjour à tous. J'ai avec moi un manga adulte qui s'appelle « Quand sonne la tempête » de Masaki Enjoji, édité en 2018. Avec une série de 5 tomes, il s'agit d'un polar social plein de rebondissements, avec des courses-poursuites. Mais pas tellement en voiture. Plutôt avec des mafieux et des types lambda à qui il arrive des grosses galères. Et celui qui est le plus en galère tout au long de l'histoire, c'est Sake. Il se retrouve même avec un téléphone portable greffé dans le ventre. Ok, le coût du téléphone, c'est un peu gros. Mais l'ensemble de l'intrigue est vraiment bien construite, ne passez pas à côté. Donc Sake, c'est un jeune homme qui a arrêté les études au collège et qui essaie de s'en sortir comme il peut, avec des petits boulots et en trempant dans des plans pas bien nets. Malgré tout, il a une morale et reste lucide sur ses actes. Sa copine lui dira même « Comme d'hab, tu fais des trucs inutilement sympas ». Un jour, il revoit deux amis d'enfance, Mimi et Kim Tak. Et le voilà à devoir se débarrasser d'un corps alors qu'un typhon approche. On a fait mieux comme fête de retrouvailles. Et à partir de là, les ennuis ne font que commencer. Il aimerait tout dire à la police, mais ce n'est pas si simple. D'autres personnages vont lui mettre des bâtons dans les roues et on ne saura plus qui lui veut du mal, pas grand monde, ça c'est certain, ou qui lui veut du bien, un peu tous les autres. Manipulé par tous, il devra faire par ordre de priorité pour sauver sa peau et s'associera à ses premiers ennemis pour piéger les seconds, ou inversement. La peste et le choléra en somme. Nous aussi, en tant que lecteurs, on se demande quoi faire à sa place et qui mériterait notre empathie. Le dessin précis et réaliste laisse bien transparaître les émotions torturées de chacun. Masaki Enjoji montre ici des personnages complexes dans une ambiance violente où rien n'est tout blanc ou tout noir. Tout cela dans une ville de province touchée par un récent séisme. Bref, vous n'êtes pas prêts de vous ennuyer dans cette histoire au rythme effréné et chaque tome vous apportera son lot de révélations jusqu'aux dernières pages pour un final qui pourrait encore vous étonner. Suivez donc Sake dans son enquête mouvementée en empruntant « Quand sonne la tempête » à la médiathèque Césaire. On vous souhaite à tous de bonnes lectures et une très bonne journée. À bientôt dans les chroniques des médiathécaires.
T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le 4e mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
tu nous as ratés.
Pense au podcast.